Laudetur Jesus Christus.
Le vrai amour est gratuit, gardons-nous d'y placer toute notion d'intérêt. C'était l'objet de la catéchèse du pape François hier midi avant l'Angélus, récité place Saint-Pierre. Nous y revenons dans quelques instants. Les 6 mois du coup d'État en Birmanie, 6 mois que la junte est au pouvoir et le pays n'a jamais traversé de crise aussi grave qu'à présent. Mais très peu de Birmans ont osé hier manifester contre l'armée. 120 incendies en 5 jours, la Turquie a rarement connu un été aussi chaud et destructeur. Les précisions à venir de notre correspondante sur place. Et puis dans notre dossier, nous nous intéressons à la situation politique au pays du Jasmin. Une semaine après la suspension du Parlement, la Tunisie n'a toujours pas de Premier ministre. Comment le président envisage-t-il désormais l'exercice de ses nouveaux pouvoirs? Élément de réponse d'ici quelques minutes.
Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
Bonjour, nous aimer les uns les autres avec gratuité et sans calcul. Lors de la prière de l'Angélus ce dimanche, le pape François est revenu sur l'évangile selon saint Jean où les barques affluent vers Capharnaüm à la rencontre de Jésus. Le Seigneur désire une relation d'amour avec nous, a expliqué le pape dans sa catéchèse, un amour à placer avant toute chose. Le compte-rendu d'Olivier Bonnel.
Allora, una prima domanda che possiamo farci tutti noi.
La première question que nous pouvons nous poser, pourquoi cherchons-nous le Seigneur? Quelles sont les motivations de notre foi? Demandait le pape. Nous devons le discerner car parmi les nombreuses tentations, il en est une que nous pourrions appeler la tentation idolâtre. C'est elle qui nous pousse à chercher Dieu pour notre propre usage, pour avoir grâce à lui ce que nous ne pouvons obtenir par nous-mêmes, a poursuivi le Saint-Père. Mais de cette manière, la foi reste superficielle et miraculeuse, a-t-il souligné. Le Seigneur, qui agit bien au-delà de nos attentes, a poursuivi François, veut vivre avec nous avant tout dans une relation d'amour. Et le véritable amour est désintéressé et gratuit. La deuxième question posée dans l'Évangile est également importante, a expliqué le pape. Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Comme si les gens provoqués par Jésus disaient « Comment purifier notre recherche de Dieu, passer d'une foi magique qui ne pense qu'à nos propres besoins à une foi qui plaît à Dieu ?» Face à cette interrogation, c'est Jésus qui indique le chemin. La question est bien d'accueillir Jésus dans notre vie, de vivre une histoire d'amour avec lui, a précisé François. Il existe une relation avec lui qui va au-delà de la logique, de l'intérêt et du calcul. L'invitation de l'Évangile est ainsi la suivante. Au lieu de nous préoccuper uniquement du pain matériel qui nous nourrit, accueillons Jésus comme le pain de vie et à partir de notre amitié avec lui, apprenons à nous aimer les uns les autres avec gratuité et sans calcul.
Amore gratuito e senza calcoli.
Olivier Bonnel, une catéchèse à retrouver plus en détail sur vaticannews.va. À la une de l'actualité internationale, les combats entre l'armée et les talibans gagnent les grandes villes afghanes, désormais au sud et dans l'ouest du pays. Repoussés une première fois samedi de la capitale de la province méridionale du Helmand, les insurgés talibans sont revenus en force hier, parvenant à pénétrer dans cette ville de 200 000 habitants. La situation humanitaire est très critique en Afghanistan à cause des tirs et des bombardements. Cela fait 6 mois aujourd'hui que la junte a pris le pouvoir en Birmanie. Dans un discours hier marquant cet anniversaire, son chef, le général Min Aung Hlaing a promis la tenue d'élections d'ici août 2023. Terrifié par la répression, 900 morts de civils depuis février, très peu de Birmans ont osé descendre dans la rue hier pour protester contre l'anniversaire de ce coup d'État ayant plongé le pays dans le chaos. Crise sanitaire, économique, politique, alors que certaines zones ont complètement glissé dans la guerre civile, des millions de Birmans luttent désormais pour leur survie. La correspondance régionale de Carole Izou.
Un pays exsangue, une population épuisée. Après avoir lutté pendant des mois contre la dictature des militaires, les Birmans doivent désormais faire face au virus Covid-19. Le pays reporte au moins 300 morts par jour, mais l'administration dépassée a cessé de tenir le décompte des morts. Quant à la situation économique, elle est catastrophique. Des millions de Birmans n'ont plus d'emploi, plus de revenus et des difficultés à se nourrir. Pour Min Zin, politologue exilé à Chiang Mai en Thaïlande, le désastre humanitaire est total et doit appeler à la solidarité internationale.
Nous avons atteint un niveau d'impératif humanitaire, de grave crise humanitaire. Ces derniers jours, j'ai perdu 2 cousines très proches et 14 de mes collègues. L'économie est au plus bas. Même si vous avez de l'argent sur votre compte en banque, vous ne pouvez pas le retirer à cause de la crise du secteur bancaire. Et maintenant, pour beaucoup de Birmans, la nourriture vient à manquer. Il y a des pénuries de nourriture et c'est pour ça que je parle d'impératif humanitaire.
Mais à cause du manque de garanties offertes par l'administration militaire, l'aide humanitaire internationale se fait attendre. Quant au mouvement pro-démocratie, ces instances politiques critiquées par les leaders ethniques du pays et qui n'ont pas encore obtenu de vraie reconnaissance internationale semblent pour l'instant dans l'impasse. Bangkok, Carole Izou pour Radio Vatican.
Et puis l'on attend la nomination de l'envoyé spécial de l'ASEAN pour la Birmanie. Les 10 pays membres de cette association des nations de l'Asie du Sud-Est doivent confirmer son identité aujourd'hui. La guerre de l'ombre se poursuit entre l'Iran et l'Occident. Tel Aviv, Washington et Londres accusent aujourd'hui Téhéran d'avoir fomenté la récente attaque meurtrière contre un pétrolier en mer d'Oman. Les États-Unis menacent d'une réplique appropriée. L'Iran, elle, nie toute responsabilité. C'est jeudi dernier qu'un pétrolier géré par la société d'un milliardaire israélien a été la cible d'une attaque au drone selon l'armée américaine qui dispose de navires dans cette région. 2 personnes sont mortes à bord. Des violences au sud de la capitale libanaise ont éclaté hier entre sunnites et chiites du Hezbollah. 5 personnes ont péri, dont 3 sont membres de ce groupe islamiste. Le nouveau premier ministre désigné du Liban, Najib Miqtati, met en garde contre une discorde confessionnelle au pays du Cèdre. Le Liban, où le contexte demeure dramatique, le pays s'apprête à commémorer cette semaine l'anniversaire de la gigantesque explosion du port de Beyrouth. C'était le 4 août 2020, catastrophe ayant coûté la vie à plus de 200 personnes et fait plus de 6000 blessés. Un an après, le pays observera une journée de deuil mercredi. Hier dimanche, des messes étaient organisées un peu partout dans plusieurs églises du Liban en souvenir des victimes. Le 5e jour de lutte contre les feux de forêt en Turquie. Depuis mercredi dernier, les pompiers s'échinent à combattre les flammes. Le bilan provisoire s'est alourdi hier à 7 morts et plus de 300 blessés. Dans plusieurs stations balnéaires de la côte méditerranéenne turque, des habitants et des voyageurs ont dû être évacués de leur domicile et de leur hôtel. Des enquêtes ont aussi été ouvertes pour déterminer les causes de ces incendies, mais les autorités sont déjà vivement critiquées. Le point à Istanbul avec Anand Lauer.
Près de 120 incendies en 5 jours. La Turquie a rarement connu un été aussi chaud et aussi destructeur. Des feux de forêt ont éclaté dans une trentaine de provinces, mais Antalya et sa voisine, Moula, sont de loin les plus touchés. Alors que des habitants continuent de fuir leur domicile, les flammes s'approchent parfois dangereusement des hôtels. À Bodrum et Marmaris, des touristes ont dû quitter leur lieu de vacances au cours du week-end. L'armée a déployé dimanche 2 navires pour participer aux évacuations. Si des enquêtes sont en cours, Recep Tayyip Erdogan a laissé entendre que certains incendies seraient d'origine criminelle, terroriste, a-t-il même dit. En visite à Antalya, le président turc a remercié la Russie, l'Ukraine, l'Azerbaïdjan et l'Iran qui ont envoyé des avions et des hélicoptères. Mais le chef de l'État essuie de vives critiques de l'opposition qui s'indigne du fait que la Turquie ne dispose pas d'avions bombardiers d'eau. Elle accuse le gouvernement d'avoir quasiment démantelé une organisation semi-publique créée à cet effet et dont les avions sont aujourd'hui cloués au sol. Et ce, alors que les feux de forêt sont de plus en plus nombreux chaque été. À Istanbul, en dehors pour Radio Vatican.
Les Brésiliens dans les rues hier pour protester contre le système de vote électronique en vigueur dans le pays depuis 1996. Des milliers de manifestants, principalement des soutiens au président Jair Bolsonaro, ont défilé sur la plage de Copacabana à Rio. Ils souhaitent que les voix puissent être recomptées physiquement après chaque scrutin. Le président Bolsonaro vise sa réélection en 2022. Quand politique rime avec Jeux Olympiques, Minsk tente de rapatrier de force l'une de ses athlètes qui a critiqué les dirigeants de la Fédération d'athlétisme bélarusse depuis Tokyo. Depuis l'aéroport de Haneda, l'athlète Kristina Timanovskaya a demandé l'aide de la police japonaise pour éviter d'être renvoyée dans son pays contre son gré. Elle est désormais en sécurité sur l'archipel nippon, assure ce matin le Comité international olympique. Retour sur toute cette affaire avec Jean-Didier Revoin à Moscou.
C'est un post Instagram qui aurait tout déclenché. Sélectionnée pour disputer les épreuves olympiques des 100 et 200 mètres d'athlétisme, Kristina Timanovskaya a reproché à sa fédération de la forcer à disputer l'épreuve du 4x400 mètres. 2 autres athlètes n'auraient pas réalisé un nombre suffisant de contrôles antidopage pour pouvoir y participer. Des officiels biélorusses lui auraient alors donné 1 heure pour faire ses bagages avant de la conduire à l'aéroport. Mais une fois sur place, elle aurait été placée sous la protection de la police japonaise. Alertée, le Comité international olympique a demandé des des explications au comité olympique biélorusse dirigé par le fils d'Alexandre Loukachenko. Dans un communiqué, il lui a répondu qu'il s'agissait d'une décision des médecins due à l'état émotionnel et psychologique de l'athlète. Kristina Timanovskaya envisage pour sa part de demander l'asile politique à l'Autriche. Elle craint en effet d'être arrêtée dès son arrivée en Biélorussie pour avoir critiqué publiquement le régime. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
Des bruits de bottes en Zambie. Avant la présidentielle du 12 août, l'armée se déploie peu à peu dans ce pays d'Afrique australe sur ordonnance du président Edgar Lungu. À 64 ans, il est candidat à un second mandat très controversé. Un poste de Premier ministre toujours vacant, des arrestations de députés une semaine après la prise de pouvoir du président Raïs Saïed en Tunisie. La crainte d'une dérive autoritaire inquiète au pays du Jasmin. Le président s'est octroyé les pleins pouvoirs le 25 juillet dernier et a suspendu le Parlement en affirmant vouloir sauver le pays rongé par des mois de blocage politique. Instaurant ce régime d'exception soutenu par la population mais dénoncé par ses adversaires du parti islamiste Ennahda comme un coup d'État, Raïs Saïed a également lever l'immunité parlementaire des députés. Dans ce contexte, les arrestations de ces trois derniers jours font polémique. Comment le président pourra-t-il désormais gouverner? Sa méthode sera-t-elle durable? Qui sont ses soutiens? Nous avons posé la question à Hasni Abidi, il est directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève.
Le blocage et la paralysie des institutions tunisiennes a commencé bien avant la dégradation des conditions sanitaires liées à la mauvaise gestion du gouvernement de cette crise sanitaire. On sait que le président, qui ne cultive pas une excellente relation avec la classe politique, souvent critiqué par lui-même, dénoncé aussi par son incompétence, par son incurie, mais aussi par les affaires de corruption, ses critiques, ses éléments de langage qui sont très proches d'un discours populistes ont réussi à capter une grande partie de la population qui même sortit dans les rues de plusieurs villes en Tunisie pour le féliciter d'avoir mis fin aux fonctions du gouvernement et neutralisé le chef de Ennahda, M. Ennouchi, ainsi que le Parlement. Donc il y a une certaine popularité des Tunisiens qui sont plutôt fatigués par cette situation de paralysie et qui étouffent sous le poids des conditions économiques et sociales et la guéguerre entre le président de la République et le chef du gouvernement. Mais on a une autre partie aussi de la classe politique tunisienne, on l'a bien vu, à part deux partis politiques, les autres partis ont plutôt dénoncé la mainmise du président. Donc les avis sont partagés, mais Raïs Saïed continue d'avoir une bonne image. Je pense qu'elle est conditionnée un petit peu à la suite de ces événements.
À quand remonte justement ce bras de fer et cette paralysie politique entre le président et son premier ministre ?
La crise profonde, elle date plutôt des élections législatives et des élections présidentielles. D'abord des élections législatives qui ont fragmenté la classe politique tunisienne et la représentation électorale au Parlement, ce qui empêche à ce dernier de dégager une majorité parlementaire. 2019 a produit finalement un Parlement de fragilité. L'élection d'un président de la République hors système et qui n'a pas aussi de parti politique sur lequel il peut s'appuyer. La seule institution capable de l'aider, c'est l'institution militaire, c'est l'armée. S'agit-il d'un coup d'État, comme le qualifient certains constitutionnalistes tunisiens, ou un simple coup de force de sa part, ou tout simplement un coup de poker pour se débarrasser et neutraliser tous les autres contre-pouvoirs? C'est le temps qui nous le dira. Il se targue d'avoir le peuple comme premier allié, mais ça ne suffit pas, parce que le peuple, dans mon opinion, est volatile, et la population tunisienne est impatiente, elle veut du résultat.
Diriez-vous que les Tunisiens perçoivent l'islam politique comme un échec?
Ce qui est clair, c'est que l'opposition islamiste, étant confrontée au pouvoir, elle a montré des limites. Elle a même enregistré des grands échecs. Mais la faute, elle n'est pas seulement, évidemment, au mouvement Ennahda. C'est une faute qui est partagée par l'ensemble de la classe politique, l'ensemble du personnel politique. Mais on est face à une situation intéressante où, justement, l'islam politique au pouvoir, finalement, ne fait pas mieux que d'autres partis politiques dans la mesure où la corruption continue, alors que finalement les Tunisiens ont voté pour un parti perçu comme un parti de vertu. Le deuxième élément, c'est que Ennahda, le parti islamiste ou l'islam politique, comme en Égypte d'ailleurs, n'a pas réussi à tisser des passerelles et des liens importants avec d'autres partis politiques, ne s'est pas tourné vers la société civile, n'a pas vraiment engagé des réformes importantes sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan sécuritaire. Et on sait que la population, en pareil cas, elle regarde surtout l'amélioration de leur quotidien économique.
Asni Abidi, politologue spécialiste du Maghreb, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité revient à 13h. Belle journée.